Tu t'ennuies ?
Tu sais pas quoi faire.
T'as qu'à écouter les super chroniques des bibliothécaires
de Bourg-en-Bresse.
C'est un mercredi par mois
à 7h30, 8h30 et 12h30.
Sur Radio B, bien sûr.
Bon, tu nous as ratés ?
Tu penses au podcast ?
Oui !
Bonjour, auditeurs de Radio B. Es-tu prêt aujourd'hui à changer d'air ? Car nous allons te parler de transgression, d'exploration, de photos animalières et d'une visite au musée tout à fait décalée. Allez, c'est parti pour la chronique des bibliothécaires.
Bonjour à tous. Alors, les amis, un peu de sérieux pour un film qui, sous des aspects grand guignol, voire absurdes, révèle une dimension cathartique évidente. Oui, cathartique, oui. N'ayons pas peur des mots. Aujourd'hui, je voudrais que vous regardiez God Bless America de Bobcat Goldthwait avec Joel Murray et Tara Lynn Barr, sorti en 2012. Vous trouvez que c'est déjà vieillot ? Vous me faites rire. Frank vient de se faire licencier. Il vient également d'apprendre qu'il est gravement malade. Il s'enferme chez lui, allume la télé, et le lendemain, il ne peut plus encaisser la bêtise, la veulerie, la méchanceté, le mépris, les bassesses, l'injustice, la suffisance dont font preuve ses congénères, le tout vaillamment cultivé et diffusé à la radio, la télé, sur le net, de façon continue. Frank refuse de s'écraser, et il a dû faire face depuis si longtemps. Alors après avoir zigouillé une jeune fille insupportable, il embarque pour une sorte de road trip en compagnie d'une jeune adolescente, Roxy, tout aussi désabusée, l'énergie lumineuse en plus, pendant lequel, road trip pendant lequel, ils prendront soin d'éliminer toute forme de mépris, bêtise, méchanceté, émanant d'un corps humain. Et ces formes, nous le verrons dans le film, existent en quantité infinie. Voilà pour le pitch du film. Et j'irais, Bonnie and Clyde, tueur né, le principe du couple tueur n'est pas nouveau au cinéma, certes. Mais God Bless America n'est pas qu'une simple cavale meurtrière où un couple amoureux court à sa perte envers et contre tous. Frank et Roxy ne sont jamais amoureux, ils sont complices. Les crimes qu'ils commettent ne servent pas à leur survie ou ne sont pas gratuits. Ils sont une attaque contre une violence quotidienne déguisée que le spectateur voit déjà perdue d'avance. Mais pour 7h30 de film... Voir des gens ouvertement méprisables se faire taire fait naître chez le spectateur une jubilation, d'autant plus forte qu'elle est évidemment répréhensible. Attention, ce film ne peut pas se regarder au premier degré. Bobcat Goldthwait évite toute volonté moralisatrice inutile ou trop d'explications maladroites pour montrer que vraiment, c'est mal de tuer les gens et fait ainsi directement appel au discernement et à l'intelligence du spectateur. S'il devait rester un message à ce film, il ne résidera pas dans une pseudo-fascination pour les crimes commis, non, mais bien dans la nécessaire prise de conscience que d'une façon ou d'une autre, cette violence que ne supportent plus Frank et Roxy dans le film, cette violence se paie, que l'on soit en 2012, mais encore plus aujourd'hui en 2021.
T'es contre la liberté d'expression maintenant ? C'est le premier amendement, mec.
Je défendrais volontiers leur liberté d'expression si je pensais qu'elle était menacée. Je défendrais la liberté d'expression qu'ils utilisent pour faire des blagues banales, homophobes et xénophobes sur la fellation et le viol, tout ça sous le couvert de la provocation. Mais c'est pas provoquer qui compte. Ce qui compte, c'est vente, c'est du commerce. Ils font exactement ce qu'on attend d'eux. Il n'y a pas plus conventionnel et commercial que leur humour, parce que cette génération adore être outrée par ce qui est soi-disant insolent. Un commentaire choquant a maintenant plus de poids que la vérité. Personne n'a plus honte de rien à notre époque. Et en plus, on est supposé s'en féliciter. Tiens, hier soir, j'ai vu une jeune fille jeter un tampon usagé sur une autre à la télévision nationale, sur une chaîne qui prétend être la chaîne des femmes d'aujourd'hui. Il y a des gamins qui se battent, qui filment leurs bagarres et qui postent la vidéo sur YouTube. Non, franchement, est-ce que tu te rappelles quand manger des vers et des mulots dans Survivor était choquant ? Ça semble complètement dépassé aujourd'hui. Très bientôt, il suffira d'avoir fait une sextape pour présenter une émission de conseil conjugal sur une chaîne musicale. Sérieusement, pour quelle raison avoir une civilisation si les personnes qui la constituent ne voient aucun intérêt à être un minimum civilisé ?
God Bless America est disponible à la médiathèque Césaire, mais attention, il est interdit aux moins de 12 ans. Voyez-le, s'il vous plaît. Merci. C'est à Sophie maintenant.
Quel enfant n'a un jour rêvé d'être explorateur ? Découvrir des terres immenses et vierges ? Rencontrer des peuples mystérieux, goûter des fruits exotiques inconnus. Un rêve que d'autres ont réalisé, peut-être même toi, cher auditeur. Nous écoutes-tu du fin fond de la forêt amazonienne, une antenne arrachée à ton pick-up éventré, tendue au-dessus de la canopée pour capter la fréquence de Radio B ? Alors, garde le bras tendu, l'ami, car je vais te parler d'une célèbre exploratrice anglaise, Isabella Bird. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, cette aventurière à la santé fragile n'avait trouvé qu'un seul remède à ses maux, voyager. Elle sillonna la planète, du Far West à l'Océanie, en passant par l'Extrême-Orient. Mais c'est au Japon, en 1878, que nous la découvrons aujourd'hui, dans le manga de Taiga Sasad, Isabella Bird, une femme exploratrice. Ce manga est l'adaptation du livre de Miss Bird nommé « Hors des sentiers battus au Japon » et reprend certaines lettres qu'elle écrivait à sa sœur. À l'origine, ce récit d'exploration était une étude sur le travail des missionnaires au Japon et la diffusion du christianisme. Mais cette dernière notion n'est pas reprise dans le manga, qui oriente son récit autour d'une approche anthropologique des coutumes du Japon rural du XIXe siècle et des profondes transformations de la société nippone. L'aventure d'Isabella Bird est inouïe. Elle consiste à traverser le Japon de Tokyo jusqu'au nord de l'archipel afin d'y rencontrer les derniers aborigènes du pays, la tribu des Ainos. Pendant 7 mois, sur 4500 kilomètres, Isabella et son guide interprète Ito usent de tous les moyens de locomotion possibles pour rallier leur destination. Et plus ils s'enfoncent dans le nord, en s'éloignant des chemins officiels, plus Isabella Bird devient elle-même l'objet de fascination de villageois, contemplant pour la première fois une étrangère. L'aventurière relate que certains allaient même jusqu'à grimper sur les toits pour l'observer manger. J'ai apprécié la lecture de ce manga car le discours est équilibré entre les personnages pro-modernisation et les conservateurs. De même, l'expédition n'est pas un récit idyllique, mais est abordée dans toute sa complexité et celle-ci se révèle difficile. La faim, les parasites, l'incompréhension, les blessures et les incidents frôlent parfois le tragique. Heureusement, Isabella Bird peut compter sur son sens de l'humour, sa plume poétique, son incroyable capacité à relativiser et sur son entourage pour atteindre le but. D'ailleurs, pour reprendre ses mots, voici ce qu'elle annonce au début du récit.
Très franchement, tu, dans ce voyage, m'inquiète. Mais j'ai depuis longtemps décidé d'être seule responsable de tout ce que pouvait me réveiller.
Le travail de recherche de Taiga Sasad sur cette époque confère au manga une valeur quasi documentaire, en restant accessible à tous. Sans être surchargé, les dessins sont riches en détails et mettent en valeur des traditions du Japon de l'ère Meiji. Pour illustrer cette période transitoire, le mangaka associe des éléments traditionnels et modernes, donnant au récit un certain anachronisme. Alors, je conseille cette série à un public ado-adulte, elle est actuellement en cours et est composée de 7 tomes que vous pourrez retrouver à la médiathèque Césaire. Les amoureux d'anthropologie, d'histoire ou de culture nippone adoreront. Et enfin, je la conseille à toi, auditeur, si tu souhaites entretenir cette âme d'explorateur qui te presse de gravir les volcans, d'escalader les plus hautes montagnes et de plonger au plus profond des abysses du monde. Ouais, ce manga est pour toi, l'aventurier. C'était Sophie et le manga Isabella Bird de Taiga Sasad. Et je laisse la parole à Fanny.
Merci Sophie. Alors bonjour à tous. C'est une première pour moi aujourd'hui car je n'avais encore jamais proposé donc, de chronique radio sur le fond local de la médiathèque Vaillant. Donc le fond local ou être un dinois, c'est un fond qui se compose de documents qui reflètent la vie et l'histoire locale et qui constitueront une part de la mémoire du département plus tard. Donc notre département étant riche de beaux paysages, aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter un très bel ouvrage qui les met en valeur, qui s'appelle donc le Buget sauvage, massif du Jura de Joël Brunet, photographe animalier. C'est un ouvrage qui est sorti il y a déjà un peu plus de 2 ans, au début de l'année 2019, mais certaines photos pourraient avoir été prises il y a quelques jours ou quelques semaines à peine. Donc c'est un ouvrage qui se présente dans un format à l'italienne, c'est-à-dire en paysage. Voilà, il contient un peu près 150 pages, avec de nombreuses photographies de paysages, de fleurs, des orchidées, des crocus, des jonquilles, mais aussi quelques textes de Joël Brunet lui-même. Alors les photographies sont très belles, notamment celles de paysages. Il y en a avec de la neige qui sont magnifiques et elles ont toutes de très belles couleurs. Il y a un rendu de lumière qui est vraiment incroyable, notamment à un moment où on voit la lumière du soleil qui traverse les feuillages d'un arbre. C'est vraiment très très beau, j'aime beaucoup. Alors Joël Brunet, donc, étant photographe animalier, il présente aussi de magnifiques photos d'animaux sauvages, comme l'hermine, le renard, le chamois, le chevreuil, il y a aussi des blaireaux, le chat sauvage et même un lynx. Donc pour certaines photos, il nous explique les conditions de prise de vue et notamment ce qu'il a ressenti au moment de quand il a voulu prendre la photo. On a l'impression d'être avec lui d'ailleurs quand il appuie sur le déclencheur de son appareil. Et c'est en particulier le cas pour une photo de renard qui est couché dans la neige et qui nous regarde. C'est vraiment impressionnant. Alors, il y a plusieurs photos que j'aime beaucoup, notamment une avec, on voit une martre des pins qui est debout sur ses pattes arrière, elle est aux aguets, elle nous observe, c'est très touchant. Plus loin, on voit des jeunes renards roux qui en sont en train de jouer insouciants sur des bottes de paille. Voilà, c'est très, très beau aussi à voir. Mais alors vraiment, j'ai eu un réel coup de cœur pour une photo qui se trouve page 25 et qui représente un chat sauvage. Il est à l'arrêt, il nous regarde, il est face à l'objectif. On a l'impression qu'il nous fixe avec ses grands yeux verts et il y a la neige qui tombe à gros flocons. Il en a même un petit peu sur la tête et le museau, mais ça n'a pas l'air de le déranger du tout. Voilà, cette photo, elle est vraiment très, très touchante. Voilà, un peu plus loin, alors là aussi c'est un petit coup de cœur, il a fait une double page consacrée au grand tétra. C'est un oiseau qui a quasiment disparu, on le rencontre encore un petit peu dans les montagnes du Jura, mais il se fait rare malheureusement. Et donc je trouve que Joël Brunet nous invite là aussi à nous interroger sur un peu la place de l'homme par rapport à la nature, voilà. Et voilà, en regardant ces photos, on a vraiment envie de partir à la découverte et à la rencontre de la nature, des grands espaces que nous offre du coup notre beau département. Donc voilà, pour terminer, je vous rappelle donc le titre de cet ouvrage, Le Buget sauvage, massif du Jura, donc de Joël Brunet, qui est paru en février 2019 et qui peut bien sûr être emprunté à la médiathèque Vaillant. Voilà, je passe maintenant la parole à Lison.
Merci Fanny. Alors moi, le livre que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est un album, mais c'est un album pour grands. Il est de ces ouvrages dont on ne sait jamais quoi faire en médiathèque, car on ne sait pas toujours à qui ils s'adressent et quels lecteurs les rencontreront vraiment. Est-ce qu'ils parlent le langage de l'album, celui de la bande dessinée ou les deux? Est-ce qu'ils sont pour les enfants, les grands-enfants, les ados, les adultes ou un peu tout ça à la fois? Ça nous démange, nous bibliothécaires, les livres qu'on ne peut pas classer. Mais croyez-moi sur parole, dans le fond de nos albums pour grands, on trouve de petites pépites pour toutes et tous à partir de 8 ans. Et Fée Chamos de Gilles Baume et Régis Lejon, publié aux éditions des Éléphants, en fait partie. L'album s'ouvre sur une page où on surplombe depuis l'immense statue du Christ la baie de Rio de Janeiro. Et puis on se rapproche, case après case, on se rapproche petit à petit du musée national et de son gardien à la barbe blanche, Edson Arantes. Et l'histoire commence ainsi. Les mains sur les genoux, le buste droit, Edson Arantes regarde l'horloge devant lui. Ce sont les dernières secondes de cette journée. Les dernières secondes. Soudain, la grande aiguille se fixe au garde à vous. À bout de souffle, elle n'ira pas plus loin. Alors, Edson Arantes ajuste sa casquette, attrape sa cloche, posée sur le sol. Il se redresse et s'en va la faire tinter dans tous les couloirs du musée. On ferme. Nos fechamos. Ce livre nous raconte, à première vue, une histoire de dernière fois. Dernier tour de garde, dernier son de cloche dans les couloirs vides, dernier visiteur. Le musée ferme faute d'argent et de public. L'album pourrait s'arrêter là, si Edson, malicieusement, ne réouvrait pas en secret une toute dernière fois, après la tombée de la nuit, les portes à ses habitués. Dans notre réalité à nous, lecteurs, lectrices, le 2 septembre 2018, le musée national de Rio de Janeiro a brûlé, et une partie de ses collections avec lui. Dans Fée Chamos, la fiction rejoindra-t-elle ce morceau de l'histoire du Brésil? Je ne veux pas vous en dire trop, car je vous souhaite de lire cet album, qui réenchante et réinvente l'histoire pour notre plus grand bonheur. J'aime cet album d'amour pour ce qu'il raconte. Ses illustrations de Régis Lejon sont très fortes et les couleurs superbement travaillées. L'ambiance crépusculaire en début d'album fait place à la nuit, puis éclate sous le soleil du Brésil le lendemain matin. Je l'aime aussi pour son propos, le texte de Gilles Baume qui résonne longtemps en nous et pour l'écho qu'il fait à notre actualité où les musées sont tous fermés. Enfin, je l'aime pour son grain de folie et les interrogations vieilles comme le monde mais toujours actuelles qu'il apporte avec lui. Que sont les musées ? Que sont les objets qui s'y trouvent et quelle place occupent-ils dans la vie des gens d'un pays, dans leur histoire, dans leur mémoire et dans la société? Vous trouverez Fée Chamos dans le rayon des albums pour grands de la médiathèque Camus. Alors si vous attendez comme moi en trépignant la réouverture des musées, lisez-le. Lisez Fée Chamos pour vous tout seul ou avec vos enfants et vous pourrez ensuite en parler, y réfléchir et y rêver longtemps. Voilà, les chroniques des bibliothécaires sont terminées, mais on vous donne rendez-vous le mois prochain pour la découverte de plein d'autres coups de cœur.
Tu t'ennuies ?
Tu sais pas quoi faire.
T'as qu'à écouter les super chroniques des bibliothécaires
de Bourg-en-Bresse.
C'est un mercredi par mois
à 7h30, 8h30 et 12h30.
Sur Radio B, bien sûr.
Bon, tu nous as ratés ?
Pense au podcast.
Oui.